Radio Okapi.
Le journal, Jacques-Yves Moulima.
Publication des résultats de l'examen d'État édition 2022. Le coup d'envoi sera donné ce vendredi d'après un communiqué du ministère de l'EPST. Trois provinces sont concernées par cette publication. Il s'agit du Haut-Katanga, du Sud-Kivu et de la Tchopo. Et puis, affrontement entre les Teke et les Yaka dans la province du Maïndombe se poursuit et le nombre de victimes augmente. Hier encore, ils se sont affrontés et ces combats ont fait 7 morts et des blessés graves. Enfin, le 42e sommet de la SADC à Kinshasa a vécu. Pour parler de cet événement, nous recevons dans cette édition du journal Stéphanie Walter. Elle est chercheuse principale à l'Institut Sud-Africain des Relations Internationales. Voilà tout pour le sommet. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et merci de nous recevoir chez vous pour cette édition du journal. Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique annonce pour ce vendredi 19 août la publication des résultats de l'examen d'État édition 2022. C'est ce qu'indique le communiqué signé hier jeudi par le ministre de l'EPST, Tony Mwaba. Appelez l'équipe Lamondo pour plus de détails.
Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique porte à la connaissance du public après débat et délibération de l'examen d'État édition 2022. C'est jeudi 18 août 2022. Les jurys ont enregistré au total 924 138 élèves du cycle long, dont 369 655 filles. Ainsi donc, les jurys rendent public les résultats à partir de ce vendredi 19 août des provinces éducationnelles suivantes, ainsi que leurs lauréats renseignent le communiqué. Ce vendredi donc, trois provinces sont concernés par la publication des résultats. Il s'agit du Haut-Katanga, du Sud-Kivu et de la Tchopo. Selon le ministère de l'EPST, les résultats des autres provinces suivront au fur et à mesure. Les lauréats dans ces trois provinces sont d'ores et déjà connus. Pour le Haut-Katanga 1, meilleur lauréat, Kaita Mouine-Luc de l'Institut Kitumaini, option commerciale et gestion. Pour la Tchopo 1, lauréat Nzamayo Ndondi Freddy du collège Maël, option science. Sud Kivu 3, lauréat Mpumwa Mubake du lycée Yano, option nutrition.
Autre nouvelle dans la province de la Tchopo, la déception est quasi totale après le rendez-vous manqué d'hier jeudi 18 août du professeur Dr Denis Mukwege, alors qu'il était attendu fermement aussi bien par la population locale que par le scientifique. Annoncé pour animer les conférences scientifiques à l'université de Kisangani, le prix Nobel de la paix 2018 a été bloqué dans son hôpital de Panzi à Bukavu par des motards. Ceux-ci ont érigé des barricades dans la ville et encadré tous les accès de l'hôpital du célèbre gynécologue. Dans un communiqué publié hier jeudi, la dynamique des universitaires du Congo, structure qui s'est investie dans l'organisation de ses activités scientifiques à Kisangani, dénonce ce qu'elle qualifie d'instrumentalisation des motards qui ont empêché la mobilité du prix Nobel de la paix 2018. Jacques Moukonkolé.
Ce communiqué porte les signatures des professeurs Alphonse Maindo, Bibiche Salumu, Antoine Gouté ainsi que Billy Bolakonga. Ceux-ci regrettent que le professeur Denis Mukwege soit empêché de rallier l'aéroport de Bukavu afin de prendre son vol pour Kisangani afin d'y animer des conférences scientifiques ce jeudi 18 et le vendredi 19 au courant. La dynamique des universitaires du Congo fustige l'instrumentalisation des motards. Pour elle, ceux-ci s'inscrit dans la logique des actes visant à saboter les activités scientifiques à Kisangani. Allusion faite ici au refus par le comité de gestion de l'université de Kisangani d'accueillir ces conférences à 48 heures de leur organisation, bien que leur planification ait été faite conjointement avec les comités de gestion 3 mois auparavant, souligne le communiqué. Pour la DUC, ce report n'est qu'une partie remise. Puisque précisent les signataires, ces conférences seront organisées prochainement dès que l'agenda du professeur Denis Mukwege le permettra. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Nous l'avons dit au sommaire, dans le Maïndombe, le conflit interethnique entre les peuples Teke et Yaka s'éternise et le nombre de morts augmente. Hier jeudi, les deux tribus se sont encore affrontées dans le village Miboro, territoire de Kwamout. Bilan provisoire, 7 morts et des blessés graves. Martin Souta, le vice-président de la société civile de ce territoire, qui livre l'information à Radio Okapi, déplore ces morts et plaide pour une implication urgente du gouvernement pour restaurer l'autorité de l'État et rétablir la paix dans cette partie du pays. Irène Boma pour des précisions.
Après les affrontements de mercredi entre les peuples Teke et Yaka occasionnant 4 blessés graves au village Idouma dans le territoire de Kwamount, les habitants du village Miboro ont passé la matinée de ce jeudi 18 août 2022 dans la psychose totale. Ce village qui est déjà vidé de toutes ses femmes et enfants en fuite dans les grandes agglomérations telles que Kwamount cité a été attaqué par les peuples Yaka bien armés. Les affrontements entre ces deux communautés à Miboro ont coûté la vie à 7 personnes du côté Yaka. C'est ce que rapporte Martin Souta, vice-président de la société civile de ce territoire.
Bien avant, ils avaient déplacé leurs femmes. Ce sont les hommes qui sont restés pour attendre l'arrivée de Yaka. Parce qu'avant de vous arriver, ils vous annoncent, ils déposent des lettres que nous allons passer quel jour. Alors, le village aussi se prépare avec les armes civiles. Aujourd'hui, il y a eu attaque de Bayaka contre le village Miboro. Il y a eu 7 morts. Ce sont les Yaka qui sont morts. Vivre la perte humaine comme ça, c'est pas normal. Nous demandons que l'État congolais puisse s'impliquer pour qu'il y ait la paix.
Pour sa part, le député provincial David Bisaka, élu de Kwamount, qui confirme ces affrontements au village Miboro, s'est réservé de préciser le nombre de morts. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Pendant ce temps, Nord Kivu, l'armée dénonce de graves violations de droits humains lors des attaques du M23 de mardi 16 août dernier contre ses positions de Rwanguba et Rangira. C'est dans le groupement Djomba, territoire de Rutshuru. S'agissant du bilan de ces attaques, le commandant du secteur Sokola 2, dans un communiqué de presse rendu public, Yorji Di à Rutshuru, parle de 5 blessés parmi les civils à côté des dégâts enregistrés sur les installations de l'ICCN. Il contredit ainsi le bilan de 3 morts et 5 blessés annoncés il y a 2 jours. Le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 2 condamne à nouveau ces attaques qui, selon lui, violent la trêve édictée par les chefs d'État de l'EAC. On écoute le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike.
Il s'agit notamment de largage des bombes sur les habitations civiles à Tchakere dans la localité de Rwanguba et Rangira, causant 5 blessés parmi la population civile. Donc, M. Sabimana Serelari, 20 ans, M. Nyamureme Naishute, 46 ans, Maniiro Olive, âgé de plus de 50 ans, Sadiki Naomi, 25 ans, et Ndabakale Anise, une fillette blessée à la tête. Ils ont aussi procédé à l'attaque à l'artillerie sur les chantiers d'une centrale hydroélectrique du parc national de Virunga. Ils ont aussi tiré sur l'ambulance des forces armées de la République démocratique du Congo qui était en train de récupérer les blessés civils, préparant d'autres attaques sur nos positions à Rutshuru et Ruseke. Le M23 et ses alliés de l'armée rwandaise chassent la population de cette zone. Une autre attaque de nos positions en violation de la dite trêve par la coalition RDF M23 sera suicidaire.
Entre-temps, la prise en charge médicale de personnes blessées dans un contexte de guerre ou d'insécurité s'avère complexe et connaît des défis. C'est notamment l'évacuation des malades blessés dans les zones en crise. C'est ce qu'affirme le CICR ce mercredi à Goma au cours d'une visite de son projet dédié à la prise en charge de ces cas pour plus d'efficacité. Cette organisation internationale humanitaire voudrait renforcer son programme de transfert des compétences aux personnels locaux afin d'assurer une meilleure qualité de soins. Le point dans ce reportage avec Pierrot et la Mégie.
D'après le chef des projets de prise en charge des blessés, l'évacuation des malades depuis les lieux d'incidents, souvent en milieu rural, jusqu'aux hôpitaux partenaires du CICR à Goma, Bukavu et Beni, fait partie des tâches difficiles à expliquer Anne-Catherine Muller.
On a des blessés qui sont dans les zones qui ne sont pas accessibles. On fait des évacuations avec des ambulances de structures de santé. Parfois, le malade il doit être porté 2-3 jours dans le terrain par les volontaires. On peut utiliser notre avion. Pour les blessures graves, ces avions ne sont pas médicalisés. Donc c'est très difficile d'évacuer les malades.
En plus, les soins médicaux comportent plusieurs étapes parfois délicates, ajoute-t-elle. Ce sont notamment les cas d'amputation des membres, les suivis médicaux et psychosociaux jusqu'au rétablissement, ce qui peut prendre même plusieurs mois. C'est pourquoi cette organisation veut renforcer la formation du personnel local pour assurer la continuité des soins.
Dans le programme de transfert de compétences, on fait des formations une fois par semaine et on fait en plus un programme qu'on appelle le stage d'immersion, 3 fois par année. Et comme j'avais dit, à Bukavu, on va commencer un programme de capacity building qui va s'organiser et nous voulons essayer de former vers 200 personnes par année.
Rappelons que ce programme de prise en charge des blessés des guerres mis en place par les CICR depuis 10 ans à Goma a un impact considérable au regard du nombre de victimes dans les contextes des conflits récurrents dans la région.
Et puis le gouverneur de la province du Nord Kivu a clôturé hier jeudi sa mission de 4 jours à Butembo. Le lieutenant général Constant Dima a à cette occasion demandé à la population de ne pas s'attaquer au convoi de la MONUSCO. Il a dit lors d'une conférence de presse avant de regagner Goma. On l'écoute dans ses propos recueillis par la presse police de Butembo.
Je vous annonce que nous sommes en train de nous préparer ensemble avec vous, que ça soit vraiment apaisé. Ils seront encadrés par les forces de défense et de sécurité. Alors, ils seront en train de sortir. Je ne vois aucune raison pour qu'il y ait encore des troubles ou des violences dans notre ville de Butembo.
Nous en appelons alors aux jeunes à être vigilants, d'éviter toute manipulation et d'éviter toute action qui détourne les forces de défense et de sécurité de leur mission. Comme vous le savez, chers compatriotes, tout le monde consulte aujourd'hui les réseaux sociaux qui est une source d'intoxication de notre population. Soyez à l'écoute de vos autorités au niveau national qu'au niveau provincial pour que tout ce qui va se passer se déroule dans toute sérénité et dans le calme pour éviter encore des violences qui ne font que nous amener des malheurs, des pertes en vie humaine et des décisions de matériel.
Autre nouvelle, l'association des chauffeurs du Congo, ACO Congo Central, déplore l'insécurité et les tracasseries auxquelles font face ses membres dans l'exercice de leur métier. À en croire Maître Alain Swadi Baka, leur avocat conseil, outre les problèmes liés aux tracasseries des éléments de PCR et autres sur la route nationale numéro 1, voire dans la ville de Matadi, les chauffeurs sont devenus la proie des criminels. Il appelle à l'implication du gouverneur de province Guy Bandou pour résoudre cet épineux problème qui perdure. Maître Alain Swadi Baka, avocat conseil de l'ACO Congo Central, est au micro de Nana Plurichimambo.
Nous avons un problème de sécurisation de nos chauffeurs. Vous voyez, quelques jours ici, vers Mbanzangungu, on a constaté un véhicule qui roulait avec des bandits. Ces bandits-là, ils placent parfois des pierres sur la route. Lorsque les chauffeurs arrivent là-bas, ils s'arrêtent et ils profitent pour, au fait, soit voler. Même dans la ville, ces problèmes se posent. Nous avons aussi le problème des embouteillages. Nos routes sont transformées en marché des blocos. Alors, vous voyez, quand les chauffeurs viennent comme ça, où la route est rétrécie, le contrôle devient difficile. Le chauffeur peut être buté à ces problèmes de freinage. Et il va finir sa course sur les personnes qui sont étalées ou sur les biens qui sont étalés sur les trottoirs. Si on peut rapidement trouver une solution par rapport à ça, le chauffeur va bien rouler et il y aura moins d'accidents, par exemple. Nous avons aussi des tracasseries. Aujourd'hui, circuler la ville, vous allez constater le nombre des agents de la PCR. Nous savons très bien qu'il y a que 3 types de postes. Il y a les postes de contrôle, les postes de régulation et les postes de surveillance. Mais vous voyez que les postes de surveillance sont parfois transformés en postes de contrôle. Vous arrivez quelque part, le chauffeur est contrôlé. Il ne dépasse pas 2 mètres, il est contrôlé. Jusqu'à ce qu'il va arriver à la destination, il va subir combien de contrôles? Que l'État nous aide d'abord à gérer la circulation routière.
Et puis cette information, pas de circulation de moto au centre-ville de Bukavu hier jeudi, toute la journée. Les mesures du gouvernement provincial interdisant la circulation des motos non identifiées est entrée en vigueur ce 18 août. Ce qui n'est pas du goût des motards qui ont fait une sorte de ville sans moto. Leurs associations sollicitent un deuxième moratoire au gouverneur de province pour se faire identifier massivement. Mais la réunion prévue avec le gouverneur n'a pas abouti à un compromis. Jean Kassami nous fait le point de la situation à Bukavu.
La paralysie était totale et la population a eu de la peine à se déplacer d'un coin à l'autre de la ville, les boulevards Patrice et Méry Lumumba n'étant plus ouverts aux motocyclistes. Le ministre provincial des Transports est catégorique.
Il n'y a pas seulement les motos qui sont là, mais aussi il y a des taxis, les bus, et qui les éléments sont beaucoup de problèmes.
Ce jeudi, les chauffeurs des taxis motos ont barricadé les grandes artères, empêchant même la circulation d'autres engins roulants. Les transporteurs qui ont osé braver cette situation ont été violemment bousculés par des motards à l'esprit surchauffé. Une rencontre a eu lieu dans l'après-midi entre les autorités provinciales et les représentants des associations des motards. Le coordonnateur de la synergie des associations des motocyclistes du Sud Kivu nous en donne le contenu.
La réunion s'est terminée ainsi de façon parce que le gouverneur est resté ferme. On a sollicité auprès de lui qu'il puisse revenir sur ses décisions, mais il a refusé.
La police a déployé une caravane motorisée faisant le tour de la ville pour dissuader les motards à ne pas circuler. Des échauffourées entre les éléments de la police et les motocyclistes ont été signalées dans la commune populaire de Kadutu. Les activités ont tourné au ralenti dans plusieurs secteurs vitaux. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Kenya, le 9 août, les électeurs ont voté pour leur président, mais aussi plusieurs élus locaux et les candidates ont obtenu un nombre record de postes. 26 députés sur 290 sièges, 3 de plus qu'en 2017, 7 gouverneurs sur 47 contre 3 lors du scrutin dernier. 3 sénatrices vont également siéger. Pendant que le bras de fer autour des résultats entre William Ruto et Raila Odinga continue, les associations de défense des droits des femmes se sont félicitées de l'avancée de ces dernières en politique, même si beaucoup d'efforts restent à faire. Et puis, au moins 4 fortes explosions ont secoué jeudi 18 août les abords de la base aérienne militaire russe de Belbek, près de Sébastopol, principale ville de Crimée, sous occupation russe, rapporte des sources dans la péninsule.
L'invité.
Notre invité ce matin, c'est Stéphanie Walter, chercheuse principale à l'Institut sud-africain des relations internationales. Elle s'exprime sur le 42e sommet de la SADC qui vient d'avoir lieu ici à Kinshasa, où plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont pris part. Stéphanie Walter répond aux questions de Martin Sebujangwe. Suivez.
Bonjour Stéphanie Walters. Le 42e sommet de la SADC a pris fin ici à Kinshasa avec, entre autres décisions, l'élection du président Félix Tshisekedi comme nouveau président de l'organisation. Quel est votre commentaire?
C'est une question assez automatique au niveau de la SADC, c'est-à-dire qu'il y a une rotation annuelle entre les différents présidents des pays membres de la SADC qui prennent la tête de l'organisation et donc là, c'est le président Tshisekedi qui aura ce poste pendant un an.
Vous parlez d'une présidence rotative. Est-ce que, vu de Kinshasa, vu de la RDC, les Congolais, peut-on attendre des bénéfices par rapport à cette élection du président Tshisekedi à la tête de la SADC?
Oui, je crois que même si c'est une présidence qui est rotationnelle, c'est sûr que quand tu as un président, il peut imprimer un peu son agenda sur les différentes discussions et il peut surtout, dans le contexte dans lequel se trouve actuellement la RDC, rappeler aux autres États membres les questions d'insécurité qui sont d'actualité en RDC. Donc, il peut utiliser ce poste-là pour rappeler à tout le monde que le pays a besoin de soutien. Ça, c'est sûr qu'il pourra faire ça pendant sa présidence.
Sur le plan sécuritaire, effectivement, le sommet a exprimé sa préoccupation et sa solidarité sur les derniers développements sécuritaires dans l'Est de la RDC et l'organisation voudrait explorer toutes les voies possibles pour soutenir les efforts visant à améliorer la situation sécuritaire. Pensez-vous à l'éventualité d'une approche militaire comme cela a été fait en 1998.
En fait, nous avons depuis 2013 une présence de 3 pays SADC au sein de la brigade d'intervention qui est attachée à la MONUSCO. Et ce sont les soldats de la Tanzanie, du Malawi et de l'Afrique du Sud. Et d'ailleurs, le président Tshisekedi a fait mention de ces 3 pays et les a remerciés pour leur soutien à la sécurité en RDC. Donc effectivement, aujourd'hui, nous avons toujours une présence de ces 3 pays et donc une implication directe de la SADC dans les questions de sécurité en RDC. Par contre, je voudrais dire que je crois que même si on a mis dans le communiqué final une mention de l'insécurité et surtout de la situation avec le M23, le sommet n'a pas exprimé clairement, n'a pas condamné le rôle du Rwanda, ce qui est quand même étonnant. Et donc, je me demande s'il n'y a pas un peu de réticence par rapport à la situation actuelle. On a très souvent parlé d'une certaine froideur depuis que Tshisekedi a amené la RDC au sein de la communauté est-africaine. Donc, quelque part, dans ce communiqué, je lis un peu de distance entre les implications du passé et aujourd'hui.
Et comment voyez-vous, à partir de là où vous êtes, la décision des pays de la East African Community à déployer une force régionale à l'est de la RDC?
Bon, je crois que nous nous posons tous beaucoup de questions par rapport à cette force. Cette force sera constituée par quel pays, financée par quel, avec quels objectifs, quelle durée opérationnelle. Aujourd'hui, on annonce l'arrivée des troupes burundaises sous égide de cette force régionale, mais on sait que depuis un certain temps, ces troupes sont déjà présentes en RDC, informellement, et puis, à part le Burundi, qui d'autre va s'impliquer? Est-ce que réellement cela a un sens de déployer des troupes des pays qui sont impliqués dans l'instabilité de l'Est de la RDC dans une force régionale? Donc, à mon avis, il y a beaucoup plus de questions que de réponses par rapport à cette force, et donc il y a quand même un peu de doute, je crois aussi, un peu de scepticisme de la part de la population par rapport à cette force-là.
Oui, à part le Burundi, il y a déjà aussi les Ougandais qui sont dans la partie le Grand Nord du Nord Kivu et l'Ituri depuis quelques mois déjà.
Oui, justement, absolument, vous avez raison. Et puis, la question qu'on se pose, c'est que si déjà on a cette présence-là qui est effectivement le résultat des relations et des ententes bilatérales entre la RDC et l'Ouganda d'une côté et la RDC et le Burundi d'une autre côté, comment est-ce que cela va cadrer avec la force qui a été annoncée par Kenyatta? On n'a pas trop d'informations là-dessus et je crois qu'il faut aussi dire que même s'il y a un processus politique au niveau de Nairobi qui implique les différents groupes rebelles congolaises, à mon avis, il faut lier à toute solution militaire, à tout déploiement militaire, une discussion à très haut niveau, c'est-à-dire au niveau des présidents, dans toute la région pour résoudre une fois pour toutes les tensions et les différences entre les différents pays. Ça ne sert à rien d'essayer de résoudre ça uniquement par la voie militaire. Le problème est clairement régional, il est clairement entre les différents pays et pas uniquement entre Congolais.
Stéphanie Walters, merci beaucoup pour nous avoir accordé cette interview.
Merci Martin.
Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.